Donc pour moi c'est très important parce que vous savez il y a des traverses comme ça qui se passent et puis on ne se voit pas vraiment, mais on sait qu'on est là, qu'il y en a un qui est par là, qu'il y en a un qui est par ici. Et Tony Negri et moi on s'est beaucoup rencontrés sans se voir. Parce qu'on a des amis communs, comme on a Annie Bellestrini, parce qu'on a des tas de choses comme ça. Et quand Nina Rodriguelli m'a dit ce serait bien, c'est qu'on fasse une vraie rencontre. Donc j'ai rencontré avec beaucoup de modestie, beaucoup de prudence, beaucoup de peur quelque part. Enfin, en tout cas, j'avais une espèce de difficulté à dire, après tout, est-ce que je peux imposer ça à Tony? Et Tony m'a... Nous avons déjeuné ensemble et ça a été immédiatement quelque chose de formidable. Donc je suis vraiment très, très honoré, hein. C'est un mot qu'on galvaude, mais c'est vrai. Très honoré que Tony ait bien accepté de faire ce débat aujourd'hui. Merci Tony.
Moi j'aime énormément parler avec des gens comme toi, parce que c'est mon histoire aussi. Hein. C'est pas quelque chose qui est lié seulement à un horizon esthétique, mais c'est une histoire profonde, non? Et alors je ne sais pas, j'avais des questions à te poser en réalité. Parce que, alors ce sont quatre questions, non? J'avais plus ou moins préparé, parce que en plus je suis pas... Je suis assez timide, non?
Comme moi, rencontre... ça fait deux heures.
Oui, comme toi, oui, d'accord.
Comme toi. Toutes les grandes gueules. Voilà.
Alors j'étais parti un peu les quatre questions sont autour de deux choses, trois choses justement. La première c'est ni vieux ni traître. La deuxième c'est des poèmes en chair et en os. Et la troisième c'est sur la critique de Bonito Oliva. Et la quatrième, c'est sur, bon, sur 68, mais avant Fiumal, Beau et l'action, le rapport, la nostalgie de l'action, si tu veux. Alors, on commence de la première, non?
Au niveau des traîtres, c'est évidemment pour moi très important, parce que quand on considère nos itinéraires, les gens de cette génération-là, qui sont nés un peu avant la guerre, ou un peu pendant la guerre, ou un peu après la guerre, ont eu vraiment un rapport très important, puisque notre rapport s'est confronté immédiatement à l'anticolonialisme et puis à ce qu'on a appelé les événements de 68. Et donc du coup je me suis aperçu que mes amis qui étaient avec moi à mes côtés, avec qui j'ai fait un journal comme Libération, avec qui j'ai fait des mouvements comme Vive la Révolution ou l'Arbi pointiste, est-ce que je sais encore, je me suis aperçu que d'un coup petit à petit ça rentrait dans le rang. Et pour moi c'était absolument terrible de voir que tous ces gens qui auraient pu être encore dans le désordre, encore dans la parole libre, encore dans l'inorganisation, petit à petit étaient captés un à un, tous, qu'ils soient de quelque origine qu'ils soient, étaient captés un à un à cause de la vieillesse, ce qu'on pourrait appeler la sagesse, en tout cas moi je ne veux pas être compromis par la vieillesse ni par la sagesse, étaient captés peu à peu par l'ordre et par les organisations, comme on disait. Et j'ai vu ces gens rentrer dans les partis socialistes, dans les partis communistes, etc., etc. Et j'étais très étonné de ça. Et donc quand Christian Meyer nous a demandé à Jean-Jacques Lebel, Bernard Hetzig et moi de faire cette exposition, ça s'est imposé tout de suite en disant, ben non, nous, on n'est pas encore vieux et on n'est pas prêtres. Et on reste dans cette folie de faire les choses encore par rapport à notre vérité. Et on n'a pas besoin finalement, on sait bien que le pouvoir leur appartient, mais on a notre pouvoir à côté sans adhérer à ce pouvoir-là, régulier. On a notre pouvoir qui me paraît plus important que le pouvoir régulier fait des organisations et des partis politiques.
Il y avait une autre chose dans cette question, non, ni traître, ni vieux, ni traître, ni... Et c'est un peu, c'est-à-dire, le rapport, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être avant-garde?
Ça, c'est
c'est-à-dire, c'est fini, non?
Mais non.
L'avant-garde.
Mais non.
L'avant-garde, je ne sais pas, bon, Duchamp Debord.
Voilà. Duchamp Debord, c'est pas fini. Voilà. Le problème, c'est que l'avant-garde...
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être avant-garde?
Ça, c'est formidable.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui... C'est-à-dire, n'être pas traître, on comprend bien. Mais n'être pas vieux, c'est significatif.
Ça, c'est vraiment pour moi très important. C'est vraiment une question que je préfère, parce qu'on me la pose tout le temps. Ouais. Dans l'histoire, ben, tu te rapproches, Colette. Tu te rapproches tant que tu veux, on n'a pas de micro, je ne peux pas gueuler plus fort que ça. Sinon, il faut que tu achètes un truc pour les oreilles, mais c'est une autre histoire. Donc l'autre histoire, c'est que de tout temps, quand on voit les grands mouvements de l'art contemporain ou de l'art ancien, qui ont voulu modifier le comportement, dans le comportement de l'homme, cet animal, ce mammifère, on s'aperçoit que tous ces mouvements-là, ils ont toujours duré 2 siècles. Si on prend la dynastie Tang en Chine, c'est 2 siècles. Si on prend le grand mouvement pré-islamiste, c'est 2 siècles. Si on prend la Renaissance, c'est 2 siècles. Si on prend les troubadours qui ont inventé quand même cette notion incroyable qui est l'amour, c'est 2 siècles. L'avant-garde, ça sera 2 siècles aussi. On est à mi-parcours là. Donc on est à mi-parcours, ça a démarré avec Stéphane Mallarmé, et puis le livre pour moi, le coup de dé pour d'autres, en tout cas par Stéphane Mallarmé. Et après il y a toutes les avant-gardes historiques qui arrivent, futurisme, dadaïsme, jusqu'à Cobra. Et puis après il y a un peu de flou, et ça recommence avec Fluxus, les poésies élémentaires. Et de quoi on s'aperçoit en effet, c'est là où tu as raison, qu'il y a 2 points finaux. Le premier point final c'est qu'est-ce que je peux faire après le Ready-Made. Et le deuxième point final c'est qu'est-ce que je peux faire après le Carré Blanc sur fond blanc de Malevitch. Donc on a comme ça 2 bornes absolument irrémédiables. Non, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand moi je veux parler de l'avant-garde, je suis toujours obligé d'avoir une mémoire écrite, une mémoire universitaire. Donc je dois aller dans les livres, je dois aller dans les thèses et je dois essayer de comprendre. Mais d'un coup je me dis, mais attends, c'est pas ma mémoire à moi. Moi, ma mémoire à moi, comme on va le voir tout à l'heure, c'est en chair et en os, c'est à corps et à cri, c'est comment je bouge, comment ça me transforme de bouger, et comment ça me transforme de crier, tout ça, etc. Et là, je me dis, ah oui, mais voilà pourquoi je n'ai pas cette mémoire. C'est parce que cette mémoire, elle a été éliminée. Il y a eu des tas d'inquisitions absolument dégueulasses, pourries, immondes, comme l'inquisition des gypsies, comme l'inquisition des homosexuels, comme des tas de génocides, ou sur les juifs, ou sur les arméniens, mais il n'y a pas eu cette idée d'approfondir le génocide de l'inquisition catholique. Où tous ces gens qui avaient des petites recettes très simples sur des charmes, des potages, comment tu es transformé par une danse, comment tu es transformé par une vocifération, par une vaticination, comme dirait la Piti. Alors voilà, donc je suis moi, en effet, c'est un mauvais terme, il n'y en a pas d'autre, au milieu du courant de l'avant-garde, il me reste encore un siècle à faire là-dessus. Je dis, bon, pour arriver à travailler sur les points finaux qui étaient jadis Duchamp et Malevich, allons retrouver les cultures premières qui ont brûlé dans les bûchers du Moyen-Âge.
Et pour revenir à une chose plus provinciale, non? Par exemple, cette expérience d'avant-garde, non? Faite dans le sens des Italiens que tu as connus, Spatola, Corrado Costa, et un peu, non? Qui a traversé un peu le groupe 63, voilà. Là, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas eu... Oh, il y a eu une expérience très très forte, et il n'y a pas eu un espèce de souffle historique et universel, si tu veux. Eh ben, je ne sais pas si les mots historique et universel ils sont adéquats, non, quand on parle de ces phénomènes-là. Mais je dirais plutôt intensif et d'action.
Non, c'est vrai qu'il y a eu en Italie dans ce mouvement-là, parce que ça a été un mouvement décimé, comme tu le sais, hein. Donc Adriano Spatola a disparu en 88, Patrizia Vicinelli a disparu. Tout à la fin des années 80, tous ont été décimés, au sens propre du terme. Ça a été vraiment un massacre absolu de tous. Et on reste aujourd'hui comme survivants Nanni Balestrine et Sarenco, tous les autres, Corrado Costa, Patrizia Vicinelli, Franco Beltrametti, Adriano Spatola, tous ont été. Donc évidemment, comment avoir de l'énergie, à part que nous, on se transforme en porte-parole d'eux. Mais en dehors d'être parole d'eux, comme je désire l'être pour Adriano Spatola, on a aussi quelque chose à faire. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu le relais normal qui aurait dû être pris par rapport à la poésie visive, par rapport à la poésie concrète italienne, par rapport à des gens aussi importants pour moi que Patrizia Vicinelli, Corrado Costa ou Adriano Spatola ou Franco Beltrametti. Ce relais n'a pas été pris. Mais par contre, au niveau international, ce relais est là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la source italienne, qui était une source très forte, disparaît au profit des jeunes gens, comme on voit ici en Europe et notamment en France, qui ont pris ce relais-là. Et donc, si c'est vrai que ça s'est un peu essoufflé en Italie, c'est devenu, dans la génération en France, c'est pas un très peu très fort.
Hein, c'est complètement détruit.
Ah, détruit.
Oui, détruit. Ça recommence de manière nouvelle. De ce point de vue, peut-être qu'en Italie, justement parce qu'on est dans le vide, non, peut-être que la demande est plus forte, à la limite.
Oui.
Peut-être. Hein. C'est une question de tension. Donc les tensions sont difficiles à mesurer.
Je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça.
Bon, et on vient alors au chair. Au chair, c'est-à-dire qui au fond, c'est un élément de postmodernisme absolu, non? C'est situation, quand vous avez commencé dans les années, entre les années 50, il m'a rappelé maintenant, vous avez préparé une chose en 59.
Voilà. Oui, non, c'était très important pour
ça,
nous.
Ça fait 50 ans d'histoire.
Voilà, donc on est...
Et d'anticipation. Non,
pour moi, c'est oui, c'est d'anticipation. Je
d'anticipation, parce que c'est cette histoire, bon, écriture visive, performance, jeu de voix, et écriture, comment dire, éclectique et créative en même temps, non, sans les éléments réactionnaires, dirais-je, de la recherche des origines, non, et souvent, non, dans ce jeu, et sans romantisme, dans tout sens, voilà. Tout ça, c'est-à-dire comment c'est enchaîné, non, comment c'est devenu de plus en plus, excuse-moi, j'ai dit un mot peut-être que tu n'apprécies pas, biopolitique.
Oui, c'est exactement ça, c'est, j'apprécie. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est bien aperçu, nous, la génération, donc encore la même, on va dire cette génération, grosso modo, de la Deuxième Guerre mondiale, que la poésie était absente, la poésie n'existait plus. La poésie n'avait plus aucun intérêt. Elle n'était pas lue, elle n'était pas vue, elle n'était pas regardée, elle n'existait pas. Vraiment, elle n'existait absolument pas. Et en plus, on arrive, nous, quand on est dans la force de l'âge, les années 80, notamment en France et en Italie, où on est sur le succès économique, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les années tapis. Donc, hors la réussite sociale, on est vraiment des crétins. Les gens se poussent du coude pour se moquer de ces pauvres gens qui continuent à vouloir faire de la poésie ou de l'art contemporain. Alors, là-dessus, il y a vraiment eu une prise de conscience, disant, bon, c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça, des espèces de cadavres, dans des livres cadavres, dans des résidus cadavres, qui sont les livres et les revues. Donc il faut sortir de ça. Donc on va sortir le poème du livre, on va sortir le poème de la revue, et on va le faire au sens propre du terme. Donc la seule façon de le faire réellement, c'est de le bouger avec notre corps entier, notre voix entière. Et donc il y a eu ceux qui ont joué avec en même temps la technologie qui a commencé, comme Bernard Hetzig, qui a une postérité énorme aujourd'hui sur les jeunes générations, et des gens qui étaient que sur la technologie, bon ça c'était complètement épuisé, et des gens qui étaient dans l'action directe, la poésie directe, comme Jean-Jacques Lebel ou moi, où là aussi on voit qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé. Même si les enfants aujourd'hui, les enfants qui ont entre 25 et 35 ans, ne sont pas aussi tonitruants que nous, ne sont pas aussi vociférateurs que nous, ils sont là, en chair et en os, à dire leurs textes. Personne aujourd'hui ne pourrait imaginer qu'on peut faire simplement une poésie que dans le livre. D'ailleurs, quand on a commencé à faire chez le prince du livre, qui ne voulait jamais lire pour tout l'or du monde, jamais dire un mot en dehors du livre, on n'avait qu'à le lire, c'était Louis-René Desforêts. Quand on l'a fait lire à Tarascon, ça a été pour lui une révélation. Il a changé totalement. Et j'ai vu ça avec Maurice Roche, j'ai vu ça avec tas de vieux comme ça, dont je fais partie aujourd'hui, qui avaient vraiment besoin d'un coup de s'apercevoir que la poésie, c'est que, comme pour le musicien, de partition. Pour que la poésie soit vraiment réelle, tu ne peux pas te limiter comme le musicien à la partition. Il faut qu'elle sorte de la partition. Et pour qu'elle sorte de la partition, il faut qu'elle soit interprétée. Et comme nous, on ne croit pas aux interprètes, comme on les voit ici, il fallait bien que ce soit le poète lui-même qui l'interprète, en chair et en os, à corps et à cri. En plus, les verbes en français sont magnifiques, puisqu'on peut jouer sur toutes les orthographes du corps et du cri.
Mais... Alors, ça c'est pas une origine, mais Giordano Bruno là, Giordano Bruno c'était ça, hein.
Exactement.
C'est
ça.
Pas une origine, hein, c'est l'une.
Non, non.
Ça c'est la...
Non, ce sont des jalons.
C'est ça, ce sont des jalons Renaissance, non?
Absolument, je veux voilà. dire. Sans et... lui et le rapport à la stupidité, qu'on voit, dont on voit encore la postérité aujourd'hui, dans tout ce qui est les théories contemporaines, s'il n'y a pas ce rapport à la stupidité qui rapproche des spiritualités, lui, il était plus monothéiste que moi, mais néanmoins, on n'aurait pas cette force. Ça, c'est pour nous très important.
Il faut s'y faire.
Mais ça, c'est trop beau en français. Hein.
Ah, oui.
Donc, quand j'arrive à Périgueux, où il y a un grand festival, oui. À l'Odet, où il y a un très grand festival, quand je peux avoir les abribus, dont il y a marqué Julien Blaine est de retour. Il faut s'y faire! Il faut s'y faire! Et là, c'est sa parole. Hein. Et là, c'est sa parole. Donc, j'aime beaucoup ça, les jeux qui font que tu n'as plus rien à dire, parce que c'est exactement ça. Comme la métaphore incarnée de la chute, qui est une action, tomber, et l'onomatopée chute. Et donc, d'un coup, il y a un grammairien comme Alain Frontier qui commence à faire une thèse sur la métaphore incarnée entre l'acte de tomber et la désignation de l'acte par l'onomatopée.
Ce qui me fascine dans tout ça, c'est le fait que hurler, exaspérer, retrouver le mot, et tout ça amène à une ontologie, non? Amène à quelque chose de solide. C'est le contraire Je ne sais pas, c'était la question que je voulais te poser au début, non? C'est le contraire de l'avant-garde. C'est en réalité, c'est la redécouverte, non, d'une source première, je ne dirais pas de la poésie, non, mais de l'expression.
Oui, sauf que quand on va reprendre les troubadours pour que tu comprennes bien ma pensée. Quand les troubadours inventent l'amour courtois, qui font des textes absolument magnifiques pour des femmes qui ne se baiseront jamais, pour des femmes qu'ils n'ont pratiquement pas vues, pour des femmes qui sont là mais qu'ils aiment quand même et que non mais ils savent qu'ils n'ont pas d'espoir. Néanmoins, le mec qui est à côté dit « mais moi je m'en fous, j'ai la haine, ouais. Je vais faire attention avec toi, si toi tu l'aimes, moi je la hais ». Il est pas, il est dans les troubadours, c'est le même, hein, qui s'appelle Rimbaud de Vaquera, celui qui s'appelle, parce que là on pourrait faire encore,
au
Guillaume, ou mon ami de là-bas, près de chez toi, là, près de Mantova, qui s'appelle Sordel di Goito, ah, tu vois, je veux dire, fantastique. Et là tu vois d'un coup qu'en effet, oui c'est vrai ce que tu dis, sauf que comme d'habitude, hein, c'est trop facile et je m'en excuse, mais du moment que moi je me considère malgré tout, avec toutes les réserves que tu connais, comme un artiste d'avant-garde, en effet si je dis ça, donc je fais rentrer ça dans l'avant-garde.
Oui, mais tu vois, quand je lis par exemple la présentation qui a fait venir ton livre de ton travail, là je suis un peu, je préfère l'anthologie, hein.
Ouais.
Ok. Parce qu'il commence avec Wagner, il continue avec Sturm und Drang, après il continue avec toute une série de le futurisme, après, c'est-à-dire, cette classification, qui est une classification complètement scolaire et d'une continuité dans laquelle tout, à la limite, c'est comme l'histoire de la philosophie, non, dans laquelle il n'y a jamais un point, non, qui ne soit pas préparé ou développé. Bon, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est
l'incision sur l'être. C'est la capacité de rendre, non, vivant des choses qui ne vivent pas avant, qui détermine l'expression, c'est inventer des mots. Des mots qui ont un poids ontologique, non ?
100% d'accord avec toi. Le problème d'Achille Bonitoliva, comme tous les critiques notables ou de grande notoriété, ils veulent, alors que nous on est quand même encore marginal, tu sais bien, quels que soient les efforts de Nina, pour le moment. Donc lui il va absolument nous faire rentrer dans un truc. Ils veulent nous faire rentrer. Et la seule façon pour Achille Bonitoliva, comme pour un autre qui. Comme ici, Enrico Baccelloni, etc. Surtout en Italie, on a ce phénomène-là. Parce qu'en Italie, à l'inverse de la France, il y a un petit marché par rapport à notre histoire, hein, avec des collectionneurs par rapport à cette histoire. Donc il faut absolument que les critiques d'art italien nous fassent rentrer de manière
officielle.
Bon, on pourrait dire officielle, validé. Mais pas tout à fait juste, injustifiée. Je suis d'accord avec toi, 100%.
Bon, et alors, on arrive à la dernière chose, non? C'est-à-dire, il n'y a pas chez toi, en réalité, à partir de Fiumalbo jusqu'à 68 et tout ça, une nostalgie de l'action politique en tant que telle, de te retrouver dans une multitude, non, dirais-je-moi, c'est-à-dire dans un rapport expressif pour transformer le monde, non?
Oui, bien sûr, c'est vraiment...
C'est sûr, ce que je vois dans tout ton travail. Moi, c'est certaines fois, je souffre à le regarder. Même quand il est extrêmement ironique, même quand il est extrêmement... comme ça, c'est comme si...
C'est
obligé à, par exemple, à faire une double vie, non? D'un côté le fonctionnaire, et d'autre part le poète.
C'est pire que la nostalgie, hein. C'est pire
que la. Et avec une nostalgie de mettre tout ensemble et de construire un monde différent, non, qui traverse tout ça.
C'est pire que la nostalgie, vraiment, Tony, c'est un drame épouvantable. C'est pour moi vraiment l'échec monumental, monstrueux de ma vie, je veux dire. Mais il est clair qu'on croyait que nous pouvions transformer le monde parce que nous étions dans un monde dit démocratique, et qu'on croyait à ces choses qui avaient été inventées dans les années 80, de 1700, pas de 1900, qui s'appelait la démocratie, c'est-à-dire on y croyait un peu, enfin moi j'y croyais un peu, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, et l'exécutif n'a rien à voir avec le législatif, et le législatif n'a rien à voir avec, par exemple, le judiciaire. Il se trouve qu'il y a un quatrième pouvoir qui est arrivé, nous sommes les premiers concernés par ce quatrième pouvoir, parce que c'est là où il s'exerce le plus, en Italie et en France, qui est le pouvoir médiatique. Donc aujourd'hui, tu peux transformer complètement la situation, détourner la réalité tous les jours, détourner la vérité tous les jours, abrutir et modifier la réalité tous les jours. La presse leur appartient à 100%. Donc quelle que soit la réalité d'un fait, il peut être détourné à 95%, puisque 95% des grands médias appartiennent ou à Berlusconi en Italie, ou à Nicolas Sarkozy en France, ou directement ou indirectement par leurs amis ou par leurs féaux. Donc, à partir de ça, tu te dis comment on peut faire ça? Comment moi je peux faire un média qui va arriver à rivaliser avec le magma de médias qui est à la botte de Berlusconi ou à la botte de Sarkozy? C'est impossible. Alors, peut-être il y a une solution dans les grandes organisations politiques d'opposition. Et là, tu t'aperçois que c'est absolument impossible, que ces gens sont des gens qui conservent leur idée d'une carrière personnelle, que l'opposition réelle par rapport à un pouvoir qui est devenu un pouvoir hégémonique, scandaleusement menteur, scandaleusement s'arrangeant des faits réels, tu ne peux rien faire parce que l'opposition a la même carrière personnellement par rapport à des gens. Alors tu dis, bon, peut-être il y a une solution dans les petits groupuscules. Allons voir de ce côté-là. Donc moi, je suis allé assister à des réunions de ces petites organisations qui s'appelaient jadis les Verts, maintenant c'est devenu... Selon eux, une grande organisation, mais en fait, ça joue quand même sur 40% de ces gens qui ont voté, ou NPA, etc. Et tu aperçois que ces gens-là n'ont pas du tout la mesure réelle d'une réelle transformation de cette société. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, en effet, tu dis, voilà, je suis dans l'échec, j'ai perdu, ils ont gagné. Peut-être que, comme d'habitude...
Non, j'ai ni vieux, ni traître, non.
Je ne suis pas vieux, je ne suis pas traître.
Donc, je... tu ne peux pas théoriser la désertion, non mais...
Et comment je fais?
Eh bien, je ne sais pas, moi.
C'est
mon problème, hein.
Et voilà.
C'est mon même... problème.
C'est dans le même cas que moi. Comment on fait? Comment on fait? Comment fait-on? On est plus à l'âge de faire des bombes et des trucs. Comment fait-on? Voilà, c'est pas possible. C'est pas une solution. Donc moi, c'est vrai que je pense tous les jours à ça. Voilà un collègue politique qui arrive. Et il est pareil, il a renoncé à tout. Il était député, il était maire de secteur. Et bien voilà, il passe en courant et c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Non, ça c'est vrai, le vrai problème. Mais moi, je peux dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ça 50 fois par jour. Et que toutes les tentatives, j'y vais, j'essaie de voir. Et puis d'un coup, tu t'aperçois que l'analyse politique est nulle, les ambitions personnelles sont, comme dans les petites structures, comme les grandes structures, incroyablement... voilà, donc je ne sais pas. Ce que je peux te dire...
J'ai une dernière question à te poser, c'est-à-dire... Quand vous étiez garçon là, à Fiumalbo, à faire à toutes choses là, tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'était?
Mais ça, c'est une idée de Claude Parmigiani, d'Adriano Spatola, de Giuliano Della Casa. Donc, ces trois-là, on dit, on va prendre un petit village qui s'appelle Fiumalbo, et ça va être le laboratoire du monde, tu vois. Et donc, c'était ça l'idée. C'est qu'en effet, voilà un maire au four.
Une espèce de tarnac.
Voilà, exactement. C'est tarnac, exactement. Sauf que ça n'est pas tarnac que politique, mais c'est tarnac également artistique. Mais c'est pareil au niveau de l'autonomie, au niveau de la transformation des choses, c'est pareil. Et voilà que ce village est abandonné par le maire, il est d'accord. Il faut voir ça. Est-ce que tu vas aujourd'hui proposer ça? Et donc on transforme complètement ce village, 3 ans, Fiumalbo, au profit des artistes. 66, 67, 68. Et il y avait absolument le monde entier était là, il y a eu des livres après, il y a eu des thèses ensemble. Et nous, on a vraiment pensé, en tout cas Claudio, Adriano Spatola et moi, qu'on allait vraiment montrer qu'est-ce que c'était un laboratoire, que c'était rien, ce qu'on pouvait faire à une petite échelle avec Fiumalbo, on pouvait le faire à l'échelon du monde entier. Là, en tout cas moi, je me suis trompé. Comment continuer à se tromper, des grands rêves qui continuent comme ça. Mais j'ai pas fini de rêver, Tony, j'ai pas fini de rêver. Mais je suis quand même un peu triste et un peu désespéré.
Bon, merci.
Merci à toi. Merci.